Culture Vive, Pascal Paradis.
Un petit parfum de fantastique va flotter dans cette seconde partie de Culture Vive. Par exemple, Sophie Torlotin, telle Belphégor, vous nous proposez une visite au Louvre la nuit.
Mais moi, je ne suis pas une momie égyptienne, Pascal.
Ça, je le vois.
Je vous invite plutôt à la lecture d'une bande dessinée qui se passe au Louvre, une bande dessinée intitulée « Aux heures impaires ».
Muriel Malouf, vous avez croisé Edward aux mains d'argent, l'homme qui a des ciseaux à la place des doigts.
Eh oui, et il ne m'a pas coupé les cheveux, je peux vous l'assurer. C'est un spectacle de danse signé Mathieu Bourne, et c'est une adaptation du film à succès de Tim Burton.
Est-ce fantastique à chacun de juger? En tout cas, Yasmine Chouaki, vous êtes allée voir Jacques Vergès sur scène.
Oui, alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable, parce qu'il n'en a pas besoin, justement. C'est vrai que c'est assez curieux de voir un avocat plaider pour un serial plaider. C'est le titre de cette pièce qu'il interprète, tout ça avec des guillemets, au Théâtre de la Madeleine.
Je suis sûr que parmi vous, certains se demandent si la place d'un avocat est à... au théâtre ou au palais de justice. Voilà comment je commence.
Donc, Vergès est au théâtre, en vrai, en chair et en os, pour une pièce, vous nous l'avez dit, Yasmine, intitulée Serial Plaider, en écho au serial killer qu'il a pu défendre. Quelle idée ? Ce n'est pas du tout son univers, le théâtre.
C'est vrai, a priori. C'est vrai quand même qu'il y a du personnage chez Vergès, on sera d'accord là-dessus. Il est brillant, il est opaque parfois, surmédiatisé depuis toujours pour ses choix contradictoires. Je rappelle qu'il a milité en 62 pour le FLN et qu'il a défendu une certaine Jamila Bouhired, qui était la figure de la révolution algérienne à l'époque. Elle était accusée de terrorisme. Mais il a aussi défendu des personnes accusées de crimes contre l'humanité, comme Klaus Barbie. Donc c'est un personnage ambigu, mystérieux, mondain, qui se surnomme d'ailleurs lui-même un salaud lumineux. Et c'est là que le personnage prend de l'épaisseur par rapport à l'avocat.
Donc il rejoue ses plaidoiries sur scène. C'est quoi ? Serial plaider.
Il prend la scène du Théâtre de la Madeleine, on va dire, pour une chaire collégiale. C'est-à-dire qu'on le voit assis derrière son vrai bureau d'avocat, en train de fumer son éternel Havane, un vrai. Et pendant une heure et demie, il nous donne un cours magistral sur sa conception de la plaidoirie. Pour lui, il y a une vraie parenté entre une œuvre littéraire et une œuvre judiciaire. Donc, Papy, 82 ans quand même, nous raconte, par exemple, le procès de Jeanne d'Arc, qui se déroule selon lui comme une tragédie. Il nous explique l'Antigone de Sophocle, qui est une tragédie construite comme un procès. Il nous raconte Jacques l'Éventreur et tous ces monstres...
L'histoire, quoi, avec un grand H.
Oui, mais surtout tous ces monstres qui ont transgressé l'ordre moral, c'est-à-dire tous ces monstres qu'il défend depuis toujours et qui font de lui cet avocat de la rupture. Bref, c'est un autoportrait de, par et avec Jacques Vergès.
Et vous avez eu envie de le passer à la question.
Alors c'est très compliqué de soumettre précisément Vergès à la question, vous vous en doutez. Il pratique formidablement l'art de l'esquisse, de la distance, du second degré. Je lui ai dit que c'était quand même assez curieux de voir que finalement lui, que l'on dit comédien dans la vie, c'est curieux de voir que précisément c'est sur scène qu'il ne porte aucun masque. Et là aussi, vous allez voir, sa réponse ressemble à un jeu.
Quand Sacha Guitry était sur scène, il jouait le rôle d'un autre ? Je vous pose la question, puisque le Théâtre de la Madeleine était son théâtre préféré.
Vous êtes le nouveau Sacha Guitry, le nouveau Sophocle.
Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Mais ça ne vous gêne pas, le fait d'être dans un jeu, on dirait en littérature, autobiographique, quasiment.
Non, ça ne me gêne pas. C'est une pièce de théâtre telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Quand quelqu'un lit du Céline ou quelqu'un lit de l'Apollinaire, pourquoi pas lire du Vergès ? Et il y a beaucoup plus de mouvement dans le Vergès, il y a beaucoup plus de suspense. C'est des gens qu'on guillotine, c'est des gens qu'on brûle, c'est des gens qui tuent. Bon. Donc il y a quand même une action en général, il y a un mouvement.
Donc il y a un auteur Vergès.
Oui. Je voudrais dire comme Corneille, je ne pense n'avoir pas de rival à qui je puisse faire tort en le traitant d'égal.
Bon, est-ce que sérieusement une carrière de comédien ou une carrière d'auteur commence ?
Là, vous me posez la question que me posait, avec ironie certainement, Alain Delon à Genève il y a quelques mois. Me rencontrant au cours d'une réception, il ne savait pas encore que j'allais jouer dans un théâtre, il m'a dit, peut-être était-il prophète. Alors maître, une nouvelle carrière commence ?
Réponse ?
Je lui ai dit peut-être.
Est-ce que vous êtes défendable, vous, en tant que comédien ? Vous pensez que c'est défendable comme cause, Vergès sur scène ?
Ça, c'est au public d'apprécier.
Vous vous sentez comédien sur scène ?
Non, je me sens moi-même, mais c'est les mauvais acteurs qui jouent. Les bons acteurs n'ont pas l'impression qu'ils jouent.
Oui. Simplement parce qu'il n'y a pas de rôle à jouer.
Et là, je joue le rôle de Vergès. C'est pas un rôle banal. Vergès est un personnage de théâtre aussi.
Quel est ce rôle? Comment vous le définiriez?
Comme un humaniste dans une époque où l'humanisme disparaît.
Vous aimez le théâtre?
J'adore le théâtre, mais je ne vais jamais au théâtre. Mais j'adore lire les pièces de théâtre. J'ai la touche Shakespeare.
Et qu'est-ce qui fait, selon vous, une grande pièce de théâtre?
Une grande vérité humaine. Une vérité humaine qui nous fait entrer dans l'âme du pire criminel.
Donc Serial Plaideur, c'est une grande pièce de théâtre?
C'est une grande, je n'oserais pas dire, étant donné ma modestie très connue, mais c'est une pièce de théâtre.
Je peux dire que vous avez fait un clin d'œil, là.
Vous pouvez le dire. Voilà pour la plaidoirie. Qu'en a pensé le procureur que vous êtes, Yasmine?
Bon, alors, d'abord un mot des fans de Vergès, parce que visiblement, ils étaient très présents le jour où j'y suis allée. Il y a des moments où ils applaudissent carrément à certaines phrases, comme si on écoutait une véritable plaidoirie de maître Vergès. En tout cas, lorsque je lui ai demandé si cette démarche d'autocélébration, un rien mégalo, était bien
raisonnable,
était bien raisonnable, alors il m'a expliqué que j'avais une conception, c'est moi qui avais une conception, très ringarde, très traditionnaliste du théâtre, et qu'il fallait vivre ma petite dame avec son époque. Vous savez, cette époque, Pascal, qui fait monter sur les scènes de théâtre des Gérard Miller psychanalystes, des Bernard Tapie hommes d'affaires, des Michel Noir ministres et des avocats capables de squatter des scènes de théâtre pour plaider leur propre cause. Je vous laisse juge.
Je vous adore en ringarde, Yasmine. Serial Plaideur au Théâtre de la Madeleine jusqu'à, il n'y a pas de date de fin, jusqu'à ce que le public se lasse. Il y a eu le film de Tim Burton, Edouard aux mains d'argent, qui a révélé Johnny Depp, c'était en 1995, et voilà le spectacle Muriel Malouf qui fait escale au Théâtre du Châtelet, un Edouard dansé.
Oui, tout à fait. Un Edouard donc qui est la créature, je le rappelle, d'un inventeur cruel qui lui fait des ciseaux à la place des doigts et le lâche en pleine banlieue américaine. Notre hurluberlu, aux cheveux en pétard, débarque donc parmi les pavillons propres, au jardin bien soigné. Et grâce à ses mains magiques, s'érige en coiffeur punk de ces dames, en tondeur de pelouse, voire de buisson, oui, et même de chien. Mais les choses tournent mal et notre héros finit par être rejeté, tout un symbole pour Mathieu Bourne.
Edouard, pour moi, c'est l'étranger. Et j'ai toujours aimé le personnage de l'étranger dans les pièces de théâtre que j'ai réalisées. Ses mains sont un symbole en soi. Elles peuvent représenter le racisme, une déviance sexuelle ou toutes sortes d'handicaps. C'est juste quelqu'un de différent. Il nous permet de prendre conscience de la manière dont on regarde les personnes différentes en société quand quelqu'un d'inhabituel entre dans votre lieu de vie ou votre lieu de travail. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il nous permet de réfléchir sur la manière dont on se comporte les uns avec les autres.
Muriel Malouf, Mathieu Bourne a-t-il été fidèle au personnage de Burton? Parce que c'est toujours la question quand un personnage passe du cinéma à la scène.
Oui, tout à fait. Il est complètement fidèle au film dans l'histoire, bien que son adaptation est une autre version. Elle est dansée, sans aucun texte, et donc c'est une suite de séquences, en fait.
C'est une danse très narrative, donc.
Tout à fait, des séquences assez narratives, basées sur le mime, qui s'appuie très fortement sur la musique originale de Danny Elfman, puisque c'est la musique du film, en fait, qui se retrouve dans le spectacle. Il nous raconte avec beaucoup de sensibilité cette histoire d'Edouard en passant du jazz au rock endiablé, entrecoupé de scènes de pantomime. Il faut dire qu'il a des interprètes qui sont d'aussi bons danseurs qu'acteurs, très expressifs, notamment Mathieu Malthaus qui interprète Edouard et qui nous ferait presque oublier Johnny Depp et sa performance remarquable dans le film de Tim Burton. Il a ce regard innocent du gentil monstre, incapable de toucher les autres et donc de communiquer à cause de sa malformation, et mais qui finit par se montrer bien plus humain que cette société bien pensante où il se trouve projeté, une société qui finit par le rejeter avec cruauté.
Donc c'est une adaptation assez réussie, si je vous comprends bien, Muriel. Il faut dire que Bourne, quand même, qui aime s'amuser avec les classiques, parce qu'il avait adapté à l'acte des signes...
Avec des hommes,
uniquement. Avec des hommes, donc oui. Un peu révolutionnaire, le mot est fort, mais un peu comme ça, novateur ou dépoussiérant.
Farfelu.
Farfelu, pour le moins, le mot est plus juste, vous avez raison. Il est habitué au succès, Bourne.
Tout à fait, c'est une espèce d'enfant terrible de la danse britannique, très influencé par un certain cinéma, celui de la comédie musicale. Il a une grande admiration pour Fred Astaire. Vous avez parlé du Lac des Cygnes, il a aussi donné sa version déjantée de Casse-Noisette. Et en fait, c'est quelqu'un qui a débuté comme danseur et qui, depuis une dizaine d'années, est un chorégraphe et metteur en scène à succès qui collectionne les récompenses pour ses pièces, mais aussi pour ses ballets romantiques, ses comédies musicales, ses pièces de théâtre proprement dites, puisqu'il a travaillé notamment avec la Royal Shakespeare Company sur des pièces shakespeariennes, entre autres.
Donc, Edward aux mains d'argent, c'est au Théâtre du Châtelet et c'est jusqu'au 2 novembre.
Oui.
Il semblait évident pour le Louvre d'aller vers un sujet fantastique, donc ce qui m'attire, c'est le monde de la nuit. C'était donc celui, l'univers des gardiens de nuit, des surveillants, des équipes de nuit. Et là-dessus s'enquit toute une histoire qui va faire plonger le personnage principal dans pas un monde parallèle, mais on va dire qu'il tombe en amour avec le musée de nuit. Et il va perdre pied dans sa vie. Je pense que ça peut vraiment arriver, ce genre de choses.
Le Louvre, la nuit, voici donc le décor et le sujet du nouvel album de bande dessinée d'Éric Liberge. Cela s'appelle Aux heures impaires et c'est édité chez Futuropolis avec bien sûr l'accord du Louvre. Alors que se passe-t-il, Sophie Thorlotin, dans ce qu'il est coutume d'appeler le plus grand musée du monde, la nuit?
Eh bien, il se passe que les œuvres d'art vivent leur vie, figurez-vous, Pascal. Si, tout à fait. En tout cas, dans cet album, Aux heures impaires, on y voit Bastien, c'est un jeune sourd-muet qui doit faire un stage au Louvre. Il se retrouve enrôlé par un gardien de nuit un peu particulier qui lui révèle sa mission. Eh bien, aux heures impaires, la nuit donc, il doit réveiller les œuvres d'art pour en libérer la force créatrice. C'est une sorte de soupape de liberté pour les œuvres. Cette histoire fantastique permet à l'auteur Éric Liberge de nous faire à la fois découvrir les œuvres du musée français, bien sûr la Joconde, bien sûr le scribe accroupi, mais aussi des œuvres peut-être plus méconnues du grand public, et la vie des gardiens de nuit, les coulisses, les entrailles de la vénérable institution.
Mais j'imagine que quand Liberge se balade au Louvre, la nuit ce n'est pas pour un fric-frac, mais c'est avec moult conservateurs autour de lui pour tout vérifier, que tout soit encore en place à la fin de la nuit, non?
Je ne sais pas s'il a moult conservateurs, mais en tout cas effectivement, il est venu travailler les mardis, donc le jour où le Louvre est fermé au public, et il est venu effectivement la nuit, guidé par les gardiens de nuit, mais c'est surtout en fait un peu une œuvre de commande du Louvre avec Futuropolis, puisque c'est le troisième album de bande dessinée qui paraît dans une sorte de collection, il y en aura 8 au total. C'est un peu la politique d'ouverture du Louvre aux artistes contemporains, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient plasticiens ou auteurs de bande dessinée. Et puis pour promouvoir cet album, Futuropolis et le Louvre ont eu l'idée originale ou la bonne idée de convier les journalistes eux aussi à une visite nocturne. Entre 22h30 et 1h du matin, on a pu se balader à travers les salles et surtout à travers les entrailles.
Visite nocturne donc avec Éric Liberge entre la Victoire de Samothrace, la Joconde, la Vénus de Milo à la nuit tombée.
Venez voir, regardez ici, le socle a été attaqué.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez?
Belle figure.
On montre, je montre, disons, dans cet aspect de l'histoire, tout ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire qui sont ces gens qui surveillent la nuit, qui se désocialisent un peu, mine de rien. On est coupé de tout, pourtant on est en plein Paris, mais très franchement, on est ailleurs, quoi. Donc, quelle est la psychologie de quelqu'un qui peut supporter ça pendant 5, 10, 15 ans de vie professionnelle? Est-ce qu'on finit pas par en devenir fou, peut-être? C'est aussi des questions que je leur ai posées. Et ils m'ont dit, oui, il y a des gens qui ne le supportent pas, qui sont pas faits pour ça, simplement. Il suffit qu'ils soient un peu impressionnés par la pénombre, ou ne serait-ce que quand on se retrouve en sculpture française et qu'il n'y a pas de lumière, il y a vraiment de quoi se demander où on est, hein, parce que c'est rempli de formes, de personnages, on peut très vite déraper.
Frédéric Biancardini.
Je suis agent de nuit.
Petit chef, voilà. On va commencer peut-être par deux noms.
Alors, c'est les peintures françaises. Il y a les statues romaines, il y a les statues grecques. Il y a Copte. Il y a aussi des sculptures médiévales. des sculptures sur bois allemandes.
Et ça vous arrive de vous arrêter de voir une œuvre?
Ouais. Et un truc qui est marrant, c'est qu'il y a des œuvres, des fois, on les voit pas, quoi. Et un jour, on la voit. Des fois même, il y a des gens qui disent « Elle était là avant, celle-là » C'est surtout le lieu lui-même qui est plus présent, quoi. Les œuvres... Il y a quand même des œuvres qui plaisent, il y a quand même des choses qui touchent, même si on n'y connaît rien ou on l'apprécie à peine.
Par exemple, vous, je sais pas, vous arrêtez devant la Joconde, vous en profitez pour l'avoir pour vous aussi.
Pas la Joconde, non. Mais j'aime bien la Belle Ferronnière, ouais. Celle-là, elle me touche plus. On aime bien aussi, avec d'autres collègues, aussi le côté industriel dans les sous-sols, et le côté tous les chemins de câbles, il y a un côté vraiment machinerie, qui, c'est assez sympa, quoi.
Allez, on va monter.
Allez-y. Il y a plein de poutres avec des tuyaux aluminium qui traversent des endroits très anciens. C'est les combles du musée.
Donc là, on est au-dessus de la Vénus.
Oh non, non, la Victoire de Samothrace. Il y a un peu une espèce de gaine, voilà, enveloppée d'alu, enfin, avec des parties métalliques qui sont... des vieux spots avec des poutres qui doivent dater de je ne sais quand, mais enfin tout est. Il y a vraiment un mélange de toutes les époques.
On peut aller sur un endroit, tu sais, qui est, c'est le fameux colimaçon qui sort.
On y va.
Voilà. Ouais, je sais pas si tu te souviens de cet endroit-là. C'est dans la grande galerie. À un moment donné, on est sorti du mur. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un grand colimaçon qui sort, puis une petite porte assez étroite et on débouche dans la grande galerie.
Ouais. C'est ce qui est dans la BD. Donc, c'est beaucoup plus à l'auteur. Et il est bizarre. Quoi.
Désolé. Hein.
Alors je crois que c'est plein de poussière. Hein. C'est vraiment un endroit infernal. C'est un colimaçon très haut, hein, je crois que c'est ça. Hein. Typiquement des endroits qui méritent d'être mis en valeur dans une histoire, en tout cas sur le Louvre. C'est des petits passages secrets. Donc ça, c'est super.
Vous nous emmenez où, là?
Sur la zone Sully. Et on va aller sur le balcon dans la salle des cariatides. Donc il va falloir se glisser.
Juste me rappeler pourquoi ça s'appelle le balcon des musiciens.
Parce que les musiciens étaient installés ici, sur cette tribune, et jouaient pendant que le bal se déroulait à leurs pieds.
Et maintenant, donc, c'est la salle qui abrite...
La salle des cariatides, et en fait qui abrite les collections d'art romain, grec. Je m'appelle Fabrice Zoar, je travaille au musée du Louvre, c'est aux éditions.
Et vous êtes accessoirement l'un des personnages de la BD.
Personnage, voilà, de cette bande dessinée. Oui.
Dans la bande dessinée, vous êtes conservateur.
Voilà. C'est ma deuxième casquette. Je pense que le Louvre essaie toujours d'essayer d'être avec son temps. Et donc forcément, si à notre époque, là, effectivement, la bande dessinée en France a pris un essor et un lectorat de plus en plus large. Donc je pense que pour le Louvre, c'était intéressant d'aller aussi dans ce domaine, de s'intéresser à ça et d'arriver à créer un échange, de créer une passerelle comme ça entre les collections et la bande dessinée. Parce qu'effectivement, même si on pense que le Louvre n'a pas besoin de visiteurs supplémentaires, mais auprès d'un public, même parisien parfois, de jeunes qui n'iraient pas forcément au musée, peut-être que la bande dessinée peut leur donner envie d'aller une fois voir le Louvre du coup. Et pour le Louvre aussi, c'est reconnaître, je trouve, dans la bande dessinée, des talents, quoi, reconnaître qu'il y a quand même des auteurs de grande qualité graphique. Et c'est quand même aussi l'une des missions du musée, à l'heure actuelle, j'entends, de vraiment de faire connaître à la fois ses collections, mais aussi de jouer avec ses collections et l'art contemporain.
Sophie, est-ce que ça donne envie de découvrir le Louvre pour qui ne le connaîtrait pas?
Je pense qu'effectivement, ça peut attirer un jeune public ou un plus jeune public amateur de BD fantastique et qui voit là, je ne sais pas, la statue d'Henri IV enfant en train de courir dans les couloirs ou d'imaginer les sculptures françaises en train de chevaucher voilà, dans la galerie. Je pense que ça peut voilà, donner une idée, une envie, sans doute.
Aux heures impaires d'Éric Liberge est édité donc chez Futuropolis en coédition avec le Louvre. Culture vive avec Florence Mons, Nicolas Spiga pour la réalisation, Yann Bourdelas à la technique. Demain, nous serons avec l'écrivain Jean Echenoz qui publie Courir, un livre autour de la figure du coureur à pied Émile Zapotec. Bien à vous, à demain.